Europe 1, il est 7h.
Si on avait eu le système universel tel que le président de la République Emmanuel Macron veut nous proposer, eh bien aujourd'hui, les retraités auraient perdu peut-être 10, 15, 20% de pouvoir d'achat.
Les syndicats déjà vont debout contre l'annonce d'Emmanuel Macron qui veut relancer les négociations sur la réforme des retraites. On va y revenir aussi avec Nicolas Barré. Le chef de l'État qui donne une interview à la presse locale, il prévient que la rentrée sera difficile pour le secteur aéronautique, notamment plan de restructuration chez Airbus et chez Air France. Les étudiants qui rêvent d'y travailler déchantent.
On se pose tous la question de est-ce qu'on trouvera du travail dans ce secteur-là. Mais pour nous, ingénieurs en devenir, on y voit aussi une opportunité de repenser complètement l'aviation.
Ne manquez pas l'incroyable enquête qui a permis de démanteler un réseau de téléphonie cryptée utilisé par les criminels du monde entier. Et puis dans ce journal, les vacances scolaires, c'est ce soir. Les aires de repos attendent beaucoup de monde, mais il faudra respecter les gestes barrières.
On a adapté nos aires pour accueillir des clients. On ne sait pas vraiment l'affluence qu'il y aura. En tout cas, nous, on s'est dimensionné pour faire face à une forte affluence.
Juste après ce journal, jour de départ en vacances, donc comment gérer le mal des transports chez les enfants? Ça, c'est votre rendez-vous santé avec le docteur Jimmy Mohamed. 7h15, l'innovation d'Anissé Mbida et l'effet Matrix. Vos photos à 360 degrés. Voilà qui va changer aussi les souvenirs de vacances. Et puis 7h25, l'édito sport de Virginie Fulpin avec le calvaire d'Antoine Griezmann au Barça. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1. Il est presque 7h02.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Hélène Zelani.
Emmanuel Macron est donc à la une de la plupart de vos quotidiens régionaux ce matin. Midi Libre, Courrier Picard, Sud-Ouest ou encore Le Télégramme, mais aussi Le Parisien aujourd'hui en France. Interview fleuve pour le président avant le remaniement. Que faut-il en retenir, Jean-Rémy Baudeau?
La rentrée sera difficile. Dans les colonnes de la presse régionale, Emmanuel Macron se fait direct sur les effets de la crise. Il y a des plans sociaux et il y en aura. Et le président d'esquisser ses prochains grands chantiers. Le Ségur de la santé, le grand âge ou la jeunesse. Concernant sa promesse de se réinventer, le chef de l'État affirme « Le cap sur lequel je me suis engagé en 2017 reste vrai ». Mais désormais, Emmanuel Macron plaide pour, je cite, « une reconstruction économique, sociale, environnementale et culturelle ». Emmanuel Macron, qui promet de ne pas augmenter les impôts, de travailler à une taxe carbone aux frontières de l'Europe et surtout, il relance la question de la retraite. La réforme est-elle à jeter? Non, ce serait une erreur. Il promet néanmoins de nouvelles discussions et de transformer le projet qui avait fait tant polémique. Enfin, à la veille d'un remaniement qui semble imminent, le président brosse le portrait robot de son futur gouvernement. Relance de l'économie, protection sociale, ordre républicain et souveraineté européenne. Sans préciser formellement s'il reconduit Édouard Philippe, Emmanuel Macron promet ce matin de dessiner un nouveau chemin.
Jean-Rémy Baudeau le disait, le président veut relancer la réforme des retraites et laisse d'ailleurs entendre qu'il est favorable à un allongement de la durée de cotisation.
Il souhaite que les négociations reprennent avec les partenaires sociaux dès cet été. Le président de la CFE-CGC, François Omeril, ne comprend même pas que la réforme revienne sur la table.
La raison pour laquelle on ressort ce sujet, moi, reste quand même assez énigmatique. Parce qu'on a eu la démonstration, une fois de plus, dans cette crise économique sans précédent, que le système français est le plus performant de tous. Si on avait eu le système universel tel que le président de la République Emmanuel Macron veut nous le proposer, eh bien aujourd'hui, les retraités auraient perdu peut-être 10, 15, 20% de pouvoir d'achat. Donc pourquoi ressortir ce sujet? Parce qu'il ne peut pas y avoir de bonnes raisons sociales. Tout le monde est contre, désormais. Il ne peut pas y avoir de bonnes raisons économiques. Nous l'avons maintes fois démontré. C'est en vérité dire qu'on n'abandonne pas la volonté de diminuer le niveau des pensions. C'est une façon de réemmener l'ensemble de la population sur le terrain de la discorde.
Le président de la CFE-CGC, joint par Romain Hoquet.
Emmanuel Macron tient à sa réforme des retraites et veut la remettre sur le tapis. C'est votre éclairage éco ce matin, Nicolas Barré.
Oui, il veut la remettre sur le tapis pour une raison simple. Il dit qu'elle est faite pour tous ceux qui ont eu des carrières hachées, les femmes notamment, ou qui occupent des emplois précaires. Bref, tous ceux qu'on a appelés les deuxièmes lignes pendant le confinement, les livreurs, les caissières, tous ces métiers de service qui ont fait tenir le pays. Cette France-là est perdante dans le système actuel, dit le président de la République, et c'est pourquoi il veut relancer dès cet été cette grande concertation avec les partenaires sociaux sur la réforme.
Des partenaires sociaux qui, on l'a entendu, ne sont pas très chauds.
Exactement, c'est moins qu'on puisse dire. Leur sujet, ce sont plutôt les plans sociaux qui arrivent. La rentrée sera très dure, d'ailleurs, dit Emmanuel Macron. Il n'empêche, il tient à la poursuite de cette réforme. Il dit qu'il est ouvert à toute discussion, y compris sur la question sensible de l'âge pivot. On comprend qu'il veut que cette réforme soit vraiment gravée dans le marbre avant la présidentielle de 2022, quitte à ce qu'elle soit sensiblement transformée par rapport au projet initial. Ouverture également sur l'assurance chômage, puisqu'il renonce à allonger de 4 à 6 mois la durée de cotisation pour avoir des droits. Avec ou sans Édouard Philippe, les réformes continueront.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins dans le journal de 7h d'Europe 1.
Avec ou sans Édouard Philippe, c'est toute la question. Emmanuel Macron salue une relation de confiance unique avec son Premier ministre. Les journalistes lui ont demandé si c'était de l'histoire ancienne. Ils affirment que le président a répondu au contraire, mais cette expression ne figure pas dans la version publiée par la presse ce matin.
Sur le plan économique, Emmanuel Macron, on l'a dit, s'attend à une rentrée difficile et à des plans sociaux. Air France va détailler le sien aujourd'hui. 7500 postes supprimés d'ici à la fin 2022.
Et chez Airbus, ce sont 5000 postes qui doivent disparaître. Tout le secteur aéronautique est donc frappé de plein fouet. Les perspectives d'avenir s'envolent pour de nombreux étudiants, comme celui qu'a rencontré Élise Dangean.
Depuis que je suis tout petit, je cherche à comprendre comment c'est possible de faire voler quelque chose de plusieurs dizaines de tonnes.
Maintenant qu'il a compris, Quentin n'a plus qu'un objectif, participer au développement de nouveaux avions. Pour y parvenir, il a intégré l'an dernier une école d'ingénieurs spécialisée dans l'aéronautique. Sauf qu'avec la crise, les stages et les offres d'emploi ont quasiment disparu et le rêve de gosse a laissé place aux interrogations.
On se pose tous la question de est-ce qu'on trouvera du travail dans ce secteur-là, mais pour nous, ingénieurs en devenir, on y voit aussi une opportunité de repenser complètement l'aviation.
Et tout le défi est là, selon Olivier Lèbre, directeur de l'école d'ingénieurs ISAE Supaéro.
Cette crise, finalement, elle accélère un certain nombre de transitions technologiques qui étaient déjà en gestation, ce qu'on appelle l'avion vert ou donc l'aviation des transports décarbonés qui, pour nos jeunes ingénieurs, va leur offrir des perspectives assez extraordinaires.
En témoigne le plan de soutien à l'aéronautique avec un gros coup de pouce à l'innovation. Le gouvernement met plus d'1 milliard d'euros sur la table pour les 3 prochaines années. Objectif, devenir le leader de l'avion propre.
Et puis encore un mot de l'interview d'Emmanuel Macron. Sa priorité pour les 2 dernières années de son quinquennat, c'est, dit-il, le Ségur de la santé. D'ailleurs, la réunion de clôture prévue aujourd'hui est finalement repoussée, faute d'accord avec les syndicats.
La réforme des retraites, l'assurance chômage, les plans sociaux, il y en a et il y en aura. Cette question du Ségur de la santé, autant de sujets pour Yves Verrier, mon invité à 7h40, le secrétaire général de Force ouvrière.
Europe 1, il est 7h07.
C'est avec un peu plus de 200 voix d'avance que Martine Aubry a été réélue dimanche pour un 4e mandat à la mairie de Lille. Une victoire de justesse que l'opposition a bien l'intention de contester.
Et oui, la candidate en marche, Violette Spielboot, arrivée 3e, dépose aujourd'hui un recours devant le tribunal administratif. Elle pointe notamment l'utilisation de moyens municipaux pendant la campagne. Lionel Gougelot.
Toute la journée d'hier, Violette Spielboot et son équipe ont planché sur les arguments qui démontrent, selon eux, que le scrutin a été faussé. Ils accusent notamment Martine Aubry d'avoir profité d'être en première ligne dans la crise du coronavirus pour vanter son action municipale, mais ils pointent aussi les pressions qui auraient été exercées sur des commerçants pour monter en urgence un comité de soutien ou encore cet appel insistant à voter Aubry dans un mail envoyé aux associations de quartier par la présidente d'une structure proche de la mairie. En fait, l'ancienne directrice de cabinet de Martine Aubry ne se fait pas trop d'illusions sur la possibilité de faire annuler l'élection. Les quelques irrégularités qu'elle dit avoir observées ici ou là dans certains bureaux de vote ne devraient pas correspondre aux 227 voix qui ont permis la victoire de Martine Aubry. Elle veut surtout, à travers ce recours, dénoncer ce qu'elle considère comme un système municipal mis au service de la réélection de la maire sortante. Aucune réaction pour l'instant dans l'entourage de Martine Aubry. Et chez les Verts, coiffés sur le poteau, au bout d'une soirée à suspense, on épluche les listes d'émargement pour répertorier d'éventuelles bizarreries dans le scrutin. Stéphane Bally dira aujourd'hui s'il engage lui aussi un recours. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
De Lille à Marseille à présent. Marseille, la succession de Jean-Claude Gaudin se complique.
Et oui, la candidate LR Martine Vassal a cédé sa place au député Guy Tessier, mais un autre élu LR refuse de le soutenir en évoquant des ententes avec le Rassemblement National. Lionel Royer-Perrault annonce donc à son tour sa candidature. Le président des Républicains, Christian Jacob, en appelle au Rassemblement.
Christian Jacob, qui sera d'ailleurs l'invité de Sonia Mabrouk à 8h15 ce matin sur Europe 1.
Europe 1.
Un coup de pied dans la fourmilière du crime organisé. Une grande enquête menée par la France et les Pays-Bas vient de permettre de démanteler un réseau mondial de communication cryptée. On vous raconte ça dans la suite du journal.
Europe 1, il est 7h11, la suite du journal Hélène Zélani, Mathieu Béliard.
Nom de code, EncroChat. Ce réseau mondial de communication cryptée ultra sophistiqué et utilisé par des criminels vient d'être démantelé.
Et de multiples arrestations ont été opérées dans plusieurs pays européens à l'issue d'une enquête hors normes menée conjointement par les autorités françaises et néerlandaises. C'est ce que vous nous racontez ce matin, Salomé Legrand. D'abord, le matériel utilisé était digne des meilleurs films d'espionnage.
Absolument, des téléphones vendus 1 000 euros l'unité, sans caméra, ni micro, ni GPS, dotés d'un double système d'exploitation, l'un classique, l'autre cryptés et masqués, avec des fonctions d'effacement rapide des messages en cas d'arrestation par exemple, effacement possible à distance ou même autodestruction automatique au bout d'un certain délai. Bref, de quoi assurer une parfaite discrétion aux délinquants en tout genre et notamment aux dirigeants des réseaux.
Discrétion, oui, sauf que les enquêteurs ont réussi à infiltrer le système.
Et comme les criminels ne se doutaient de rien, les enquêteurs ont carrément eu l'impression d'être à leur table, dit l'un d'entre eux. Ils ont même été choqués parfois de voir avec quelle facilité les activités criminelles étaient planifiées. Le général Jean-Philippe Lecouf est directeur adjoint de la police judiciaire de la gendarmerie nationale.
Ce que vous pouvez voir dans certains films, on a des SMS, mais aussi des photos qui sont transmises, où et quand un certain nombre de choses vont se passer, qui va être l'objet éventuellement d'une séquestration, d'une tentative d'influence, quel conteneur va transporter des stupéfiants, etc. Un petit peu comme si on était dans une énorme réunion de criminels qui se parlent entre eux et où on est un petit peu invisible au milieu.
Mais le 13 juin dernier, le réseau s'est rendu compte qu'il était infiltré. Ses responsables ont envoyé un message d'alerte à tous les utilisateurs en leur conseillant de se débarrasser illico de leur téléphone. Quelques 50 000 appareils étaient en circulation, quasi tous utilisés par des gros bonnets de la délinquance et du crime organisé. Plus de 100 millions de messages ont été interceptés sur toute la durée de l'opération. Ils vont nourrir des centaines de procédures judiciaires en France, bien sûr, mais aussi dans le monde entier.
Salomé Legrand. Sachez aussi que 4 policiers de Seine-Saint-Denis ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire. Leur compagnie sera dissoute. Ils sont notamment soupçonnés d'avoir falsifié des procès-verbaux, mais aussi de violence ou de vol.
C'est le dernier jour de classe avant les grandes vacances. Des congés dans l'Hexagone pour beaucoup d'entre vous, à cause de la crise du Covid, bien sûr.
Et si vous prenez la route, vous vous arrêterez sans doute dans des stations-service ou sur des aires de repos. Mais attention, les gestes barrières restent obligatoires. Frédéric Michel est allé prendre la température sur l'A8 dans le Var, du côté de Brignoles.
Les parkings, à l'ombre des pins, sont encore vides. Le calme avant le grand rush. L'aire de Cambarette est l'une des plus importantes stations-service et aires de repos entre Aix-en-Provence et Fréjus. Clément Kerr inspecte une dernière fois les installations. C'est le chef de district de cette portion de la 8 pour Vinci Autoroute.
On a adapté nos aires pour accueillir les clients et puis on a adapté nos services. On les a un peu diminués pour s'adapter au contexte. On a gardé les services qui étaient les plus prisés, donc les tables de pique-nique, les cabines pour les bébés.
Pas d'atelier massage donc cette année ou d'animation en groupe. Et pour éviter les bouchons en table de pique-nique, le personnel a été renforcé et se chargera du placement.
On a évidemment les 1 mètre à respecter, du gel hydroalcoolique et puis surtout on a nos équipiers qui sont là pour accueillir les clients. Il y a aussi des couloirs de circulation dans les installations commerciales. On ne sait pas vraiment l'affluence qu'il y aura. On sort quand même d'une période de confinement qui était longue. Donc en tout cas, nous, on s'est dimensionné pour faire face à une forte affluence.
Et le message est simple, hein, sur la route ou sur les aires de repos, on pense aux autres en roulant prudemment et en respectant les gestes barrières.
Frédéric Michel à Brignoles dans le Var. La circulation devrait en tout cas être chargée en ce premier week-end de vacances scolaires. Bison futé hisse le drapeau rouge dès aujourd'hui en région parisienne dans le sens des départs. Ce sera orange partout ailleurs.
Et pour ceux qui n'ont pas la chance de partir et qui sont dans la difficulté, de la musique classique. C'était hier à l'Axou, du côté de Nancy.
Oui, des musiciens de l'Opéra de Lorraine ont joué pour les bénéficiaires des Restos du Cœur. Moment de grâce, suivi par Arthur M. Bachy.
La musique, en vrai, à nouveau le plaisir de s'accorder, de se retrouver, les deux violons, l'alto, le violoncelle. Quatuor du compositeur russe Alexandre Borodine, ce sont des musiciens de l'Opéra de Lorraine, mais pas à l'Opéra. Ici, les Restos du Cœur où Christelle est bénévole.
Ça donne des frissons, ça passe dans le corps, quoi.
Jauge limitée à 30 personnes, dont Alain bénéficiaire des Restos.
Je trouve remarquable que des personnes de cette qualité se déplace dans des endroits comme ici. Il y a 2 ans, il y avait Aïda qui est passée. C'était pas dans mes, et c'est toujours pas dans mes cordes. Donc quand on en bénéficie de manière gracieuse, c'est très bien.
Puis je pense qu'on en a besoin tous aujourd'hui.
Fédoua Beyoud de l'Opéra de Lorraine.
Enfin, voilà, on sort d'une période assez lourde et en plus eux ont des priorités qui sont aussi essentielles, hein, tout simplement. Et là, ça nous fait du bien tous.
Y compris aux musiciens eux-mêmes, commentaire de l'altiste du Quatuor. C'est quand même plus chouette que les concerts par Skype. Nancy, Arthur M. Bachy, Europe 1.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la musique adoucit les mœurs.
Merci beaucoup Hélène Zélani et on en a bien besoin. Merci à Arthur M. Bachy aussi pour ces quelques notes en fin du journal de 7h. Il est 7h16. Très bon réveil à tous.